Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
La Méditerranée est l'une des régions les plus vulnérables face au réchauffement climatique. La température pourrait augmenter de plus de 7 degrés d'ici à 2100, la pluie chuter de 60%, le niveau de la mer grimper de 50 cm. 460 millions de personnes habitent ce bassin méditerranéen. Sécheresse, avancée du désert, érosion des côtes et inondations affectent déjà les pays du Maghreb et du Machrek. À mi-chemin entre la COP21 de Paris et la COP 22 à Marrakech dans 6 mois, la MedCop Climat a réuni à Tanger les acteurs de 43 pays méditerranéens. États, ONG, scientifiques, entreprises, villes et citoyens ont multiplié les débats et les ateliers. Accès à l'eau, biodiversité, urbanisation, migration, 2 jours pour rappeler l'urgence de tenir les engagements, être solidaire, passer à l'action, partager les compétences et coopérer pour le climat. Cerise Maréchaux était sur place.
C'est pas du vent sur RFI.
Votre Altesse, Mesdames et Messieurs les ministres, les présidents de région, les élus, Excellences, je déclare ouverte la 2e MedCop Climat.
Je suis Madame Assia Bouzekri, la vice-présidente du Conseil de la région Tanger-Tétouan-le-Ceima, présidente du comité de pilotage de la MedCop Climat Tanger 2016. Cette MedCop Climat Tanger et cette à mi-chemin entre les deux COP, COP 21 et COP 22, l'objectif c'est faire entendre la voix de la Méditerranée. Parce que les pays méditerranéens sont peu considérés lors des négociations sur le climat au niveau des COP. C'est pourquoi les pays méditerranéens ont décidé d'unir leur voix pour qu'ils s'intègrent dans les négociations sur le climat. La COP 22 commence ici. C'est ici que les pays méditerranéens s'unissent pour préparer leur position pour la défendre au niveau de la COP 22 à Marrakech.
Faire entendre leur voix, c'est rappeler que la Méditerranée est l'une des zones les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Au sein même du bassin méditerranéen, la disparité est grande. Les pays des rives sud et est en sont bien plus affectés. Sécheresse, désertification, érosion des sols, hausse du niveau de la mer affectent surtout les pays des rives sud et est, qui ont pourtant moins de moyens et une plus forte pression démographique. Leurs efforts pour s'adapter au changement climatique et réduire les gaz à effet de serre sont plus importants, mais ils ont moins de moyens. L'urgence absolue, c'est l'eau. 20 millions de Méditerranéens n'ont pas accès à l'eau potable, essentiellement dans les pays du Sud et de l'Est. Les ressources pourraient se tarir de moitié d'ici à 2050. Hachmi Kenou, directeur exécutif de l'Institut méditerranéen de l'eau.
Quand on dit stress hydrique, c'est un minima de ressources en eau, juste en mètres cubes par an et par habitant. La Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui, est à 20 000 mètres cubes par an par habitant. Aujourd'hui, la Tunisie, elle n'est même pas à 400 mètres cubes par an par habitant.
À partir de quel seuil on parle de stress hydrique?
De stress hydrique à partir de 1000 mètres cubes par an et par habitant. La Palestine, c'est 80-90. Vous voyez, on est vraiment à près de zéro, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la ressource, en fin de compte, n'est pas équitablement répartie entre Israël et la Palestine et les territoires occupés surtout. Et il est clair que l'on voit dans certaines plaines arides de l'Afrique du Nord, de la Libye, de l'Égypte, Jordanie bien sûr, nous voyons ce manque d'eau et aujourd'hui nous voyons ce dépeuplement de ces campagnes aussi. Autre élément caractéristique et exemple, c'est cette avancée du désert. Là aussi, c'est une des conséquences de ce changement climatique. Aujourd'hui, vous avez des oasis, vous avez des endroits où il y avait de l'eau, et aujourd'hui, il n'y a plus de traces d'eau. Donc, le grand effort des gouvernants des pays du Sud aujourd'hui, c'est d'arriver à fixer cette avancée, d'où par le développement de plantations spécifiques, il y a des mesures d'adaptation à l'avancement du désert. L'exemple de la Tunisie, de très grands projets ces 10 dernières années ont été développés pour pouvoir fixer la végétation dans la limite entre le désert et les milieux cultivés, entre guillemets, c'est dans le sud tunisien, c'est la création de zones de plantation qui font qu'aujourd'hui, il y a une production d'arboriculture, il y a aujourd'hui une végétation qui a poussé, et puis surtout, conséquemment, de l'élevage. Aussi, c'est dans le sud algérien, dans le sud marocain, aujourd'hui, il y a de grandes campagnes de restauration, restructuration des oasis. Le concept maintenant est là, c'est la gestion durable des ressources en eau. Et les pays se sont remis en cause. Donc aujourd'hui, il y a ce besoin de communication, ce besoin d'échange d'expériences et de savoir-faire. Et c'est ces réunions-là qui permettent un échange de savoir-faire et d'expériences. Il faut dire que la technologie fait qu'avec l'utilisation des énergies renouvelables, aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à des nappes souterraines dans ces zones arides, qui souvent sont salés, qui souvent sont saumâtres, et pour lesquels des installations de dessalement ont été prévues. Nous sommes encore, bien sûr, à une échelle de démonstratif.
Où ça ?
Vous en avez dans le sud marocain, vous en avez dans le sud tunisien aujourd'hui, des projets pilotes, on appelle ça, qui puissent développer des zones qui avaient une vocation de pratiquement aller vers un extrémisme d'aridité. Aussi, une autre conséquence concrète, c'est que s'il n'y a pas de vie, d'où la migration, d'où bien sûr cet attrait des zones du Nord et bien sûr de traverser la Méditerranée en conséquence. Mais aussi une très grande composante dans les mesures d'adaptation au changement climatique, c'est le recours aux eaux non conventionnelles. On parle beaucoup de dessalement, mais on parle moins de la réutilisation des eaux usées urbaines traitées. En Tunisie, aujourd'hui, tous les golfs sont alimentés à partir des eaux usées épurées.
Et au Maroc, les golfs, ils sont alimentés par une eau qui vient d'où ? De la nappe phréatique ?
Mais aujourd'hui, les gouvernants au Maroc sont en train de réfléchir, et c'est le cas de Marrakech aujourd'hui, de pouvoir remplacer et économiser cette ressource en eau qui est hélas prise sur la ressource des eaux naturelles par des eaux non conventionnelles, d'où le grand programme de mise en place de stations d'épuration et surtout de réutilisation des eaux usées épurées.
Oui, mais ça paraît un petit peu tard pour la prise de conscience, c'est-à-dire pour irriguer les golfs avec des eaux de la nappe phréatique dans la région de Marrakech, vous ne trouvez pas ?
Non, absolument pas. Tout est une question de macroéconomie. Il est clair que le fait d'irriguer, ça développe cet essor touristique. C'est des emplois, c'est quand même une source de fixation aussi des jeunes dans la région. En même temps, il y a actuellement toute une politique réfléchie pour réutiliser l'eau normale à d'autres fins.
L'Union pour la Méditerranée a lancé 13 projets régionaux liés au climat pour plus de 3 milliards d'euros. Dépollution du lac de Bizerte et aménagement de la côte de Sfax en Tunisie, dessalement dans la bande de Gaza, projet éolien en Jordanie. Les énergies renouvelables sont un enjeu majeur pour réduire les émissions carbone. Le Maroc, qui n'a pas de pétrole, se veut un modèle en matière de transition énergétique. Saïd Mouline, directeur de l'Agence marocaine de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Oula ! Là, on est sous la tente de la Médina des Solutions. On entend le vent très fort qui fait craquer l'armature de la tente.
Oui, nous sommes à Tanger. Il y a beaucoup de vent dans cette région. Et c'est pour ça que nous avons de magnifiques projets d'énergie éolienne. Le Royaume du Maroc a décidé, pas pour la COP, mais dès mars 2009, une priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, avec des objectifs chiffrés, avec des institutions dédiées, avec des réglementations qui sont mises en place. Et nous avons des résultats exceptionnels. On a un objectif chiffré aujourd'hui qui a été annoncé par le souverain à la COP21 à Paris. C'était qu'on atteigne 52% de notre capacité énergétique d'origine renouvelable à l'horizon 2030, en solaire, en éolien, en hydraulique. C'est 52% visant à l'heure 2030. Aujourd'hui, on a combien ? On n'est même pas à 20%.
Comment on va y arriver à ça ?
C'est le plan solaire. Nous avons aujourd'hui à Ouarzazate une centrale solaire. C'est le projet Nour, avec un impact énorme, aussi bien en termes de production d'énergie, avec des renouvelables, avec du stockage, une centrale solaire qui fonctionne la nuit. Donc une technologie innovante, avec la création d'emplois et l'intégration industrielle ou des usines au Maroc. On produit des composants pour cette usine et on le voit aujourd'hui sur les autoroutes marocaines, des camions transportés de Kenitra jusqu'à Ouarzazate, des composants et autres. Nous avons aussi d'autres technologies la centrale photovoltaïque, toujours à Ouarzazate, parce que le plan solaire a démarré avec Ouarzazate.
Ça, c'est les premiers projets qui ont été depuis 2009.
Depuis 2009. Hein. Donc, c'est le plan éolien où nous avons obtenu aussi le prix le plus bas au monde de l'éolien, à 3 centimes d'euros le kilowattheure. Alors, il faut voir aussi, dans notre approche, quand vous avez des institutions dédiées, quand vous avez une réglementation, vous avez l'investissement privé qui peut venir. Nous avons eu 19 groupements du monde entier qui sont venus investir pour le projet éolien marocain. Et où nous avons aussi l'impact local qui est très important. Nos projets sont tous dans un esprit de développement durable global. Je veux venir aux petites renouvelables. Aujourd'hui, on a lancé un programme de pompage solaire dans l'agriculture. On aide les agriculteurs à passer des pompes diesel aux pompes solaires. Nous sommes à 10 000 pompes en 2 ans. Imaginez 100 000 agriculteurs qui ont une pompe solaire. 100 000 agriculteurs, c'est 500 MW, c'est l'équivalent de la centrale de Ouarzazate. Donc vous l'ajoutez aussi en termes de capacité. Donc on a, en parallèle avec cette politique des énergies renouvelables de puissance, une politique d'efficacité énergétique pour réduire sa consommation. On ne peut pas produire avec du renouvelable et gaspiller de l'autre côté.
On est à la MedCop à Tanger. Les pays de la Méditerranée sont réunis. Observez-vous une coopération concrète entre des pays méditerranéens pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique?
J'ai eu la chance de présider MEDENER, qui est l'association des agences méditerranéennes de la maîtrise d'énergie. Donc nous avons beaucoup de collaboration entre Méditerranéens pour accompagner et pour échanger entre nous, Méditerranéens, dans ce domaine. Le deuxième volet, bien sûr, l'échange ici, on l'a vu, au niveau des territoires, les régions de la Méditerranée vivent les mêmes problématiques. Donc c'est très intéressant d'avoir ces échanges. On l'a vu dans les règles, bon, on était avec nos amis grecs pour discuter un petit peu, et portugais, sur l'aspect réglementation thermique du bâtiment. On s'est inspiré de beaucoup d'échanges. Avec nos amis tunisiens et nos amis égyptiens, nous avons parlé aussi des renouvelables et de la politique menée par le Maroc, comment elle peut être développée aussi avec les partenaires. C'est tous ces échanges qui sont très importants. Et au niveau méditerranéen, on peut montrer qu'aujourd'hui, il y a une chance pour la Méditerranée dans le domaine du climat.
Finalement, la lutte contre le réchauffement climatique, ça impose une solidarité obligatoire entre les pays méditerranéens et qui crée une union qui finalement n'existait pas forcément au niveau politique jusque-là.
Et elle serait tellement importante aujourd'hui pour montrer à la jeunesse au nord et au sud qu'il y a des opportunités d'emploi, qu'il y a des opportunités de projet et que pour améliorer les conditions, bien sûr, au sud, hein, pour arrêter ce flot d'immigration, nous avons une carte à jouer ensemble importante. Créatrice d'emplois, je le dis, c'est pour ça que dans le cadre de partenariat Nord-Sud, et c'est très demandé, d'ailleurs c'est un des résultats de l'accord de Paris, c'est que nous ayons ce transfert de technologie Nord-Sud. Il le faut.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
L'adaptation au réchauffement climatique et la réduction des émissions carbone n'est pas que l'affaire de grands projets. Abdelrani, de la Fondation Humain, Terroir et Alternatives dans la région de Bellota, dans le Rif marocain, est venu partager son expérience de terrain. Contre l'érosion et le défrichage, les femmes ont participé au reboisement de la forêt, en échange d'ateliers d'agroécologie pour valoriser leur culture. Des chercheurs ainsi que les autorités locales et nationales ont soutenu ce projet qui a su allier reboisement, protection des ressources et développement social.
On a observé qu'il y a des problèmes environnementaux dans la zone. Il y a la perte de diversité et la perte de sol, l'érosion de sol. Après, on a sollicité des chercheurs et tout pour faire une étude socio-énergétique, les pratiques environnementales dans la zone. Et après, on a un projet. Et ça a été dans l'étude qu'il y a les femmes du village qui achètent des fours de bas de gamme. Mais on a sollicité avec le GRS de faire un prototype qui peut économiser la consommation de gaz. Et aussi, c'est un four qui est bien pour la santé de la femme parce que c'est isolant. On a beaucoup impliqué les femmes avec les suivis de conception de ce four. Elle répond aux exigences vraiment de la qualité du pain, de la sanitaire et aussi par rapport à la consommation de gaz. La troisième chose sur la gestion de la biomasse, c'est la taille des arbres fruitiers. La zone du nord du Maroc et surtout Ouezzane et Chefchaouen, c'est à vocation de l'olivier. Mais les agriculteurs ne pratiquent pas de la taille. Ça aussi, si nous, comme fils d'agriculteurs, on voit que notre famille ne font pas ça.
Et pourquoi ?
Parce que c'est hérité, parce que c'est naturel, c'est comme ça.
Et la taille, c'est positif pour la croissance des arbres.
Oui. Et on a voulu, nous, en tant qu'acteurs et associations, on veut que les agriculteurs font de la taille, à la fois pour générer du bois et aussi pour améliorer la production d'oliviers. Et une partie de ce bois, elle est destinée au marché pour les hammams, les fours. Et une partie, elle est utilisée localement par les femmes. De n'utiliser pas le bois de forêt, mais utiliser le bois qui est généré des vergers agricoles.
Pour sensibiliser les gens au climat, il faut faire le lien avec leur quotidien, reconnaît Touria Attarouche. Car le défi de l'analphabétisme reste immense. Selon elle, c'est l'une des raisons qui freine le mouvement agroécologique au Maroc.
Alors vraiment, c'est une situation, moi je trouve très handicapante. Je crois qu'au Maroc, on est autour du 50% au niveau national d'analphabétisme, ce qui est déjà énorme. Et nous avons beaucoup commencé à travailler dans une commune rurale, Soul, qui est périphérique à Rabat. Le taux d'analphabétisme grimpe à 65%. Donc chez les femmes, je ne vous dis pas, peut-être qu'il frôle les 90%. Donc comment est-ce que vous voulez travailler avec des gens qui ne savent pas ce que c'est que 50 cm, qui ne savent pas ce que c'est telle dose, telle... Donc vraiment un travail très très important d'organiser cette production, puisqu'il faut la prévoir du semis au niveau du sol, au niveau de la préparation de la communication avec les consommateurs, la gestion du personnel. Ce n'est pas évident à gérer tous ces aspects. Cette année, par exemple, c'est une année de sécheresse catastrophique. Et donc, tout ce qui a été semé est perdu. Donc, il y a vraiment cette crainte. Là, on doit importer toutes nos céréales. On doit importer, on a une production quasi nulle. Bon, il n'y a rien à faire, quoi. En période de sécheresse, il faut changer notre mode de fonctionnement, quoi. Et l'agroécologie répond à ce problème, puisque nous utilisons l'eau de manière parcimonieuse, on intègre l'installation des arbres, le goutte à goutte, enfin plein de techniques qui font qu'on peut préserver l'eau et l'utiliser de manière optimale.
Est-ce que vous avez des soutiens de la part de l'État marocain ?
Non, pas encore. Mais je vous dis, on est occupé encore à changer les choses, parce que la majorité des gens disent que ce n'est pas possible de produire sans pesticides et sans engrais. Donc, Il y a les mentalités à changer. Ce sont des gens qui ont été formés, formatés avec ce système-là. Donc maintenant, il faut changer tout doucement, quoi.
Il y a encore une conviction dominante que l'agroécologie ne peut pas subvenir aux besoins alimentaires de la population.
Oui, alors que le contraire a été démontré. Les responsables politiques aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne saisissent pas. Ce n'est pas évident. C'est un problème. Les officiels n'appliquent pas certaines techniques fondamentales. Ben, moi, par exemple, ça m'a fait mal la récupération de l'eau dans les villes, quoi. Ici, on pave tout. Dans la ville, vous avez vu comment ça se construit. Ça se construit de manière... c'est joli, mais finalement, la dimension eau et environnement n'est très peu prise en considération, enfin, à mon avis. Donc pour moi, il est fondamental de récupérer les eaux.
Moi, j'ai constaté depuis 3 jours que les pelouses tout autour sont arrosées en plein cagnard à midi et probablement évaporées dans l'heure.
Peut-être que les pelouses ne sont pas faites pour le climat méditerranéen. Il faut vraiment changer les mentalités, parce que même le ministère de l'Agriculture ou bien tous les techniciens, toute l'infrastructure qui existe sur place, elle est encore basée sur l'ancien système de production classique avec pesticides, avec engrais, etc. Donc l'essentiel, c'est les grandes fermes, les grandes exploitations pour répondre à des grandes demandes locales ou d'exportation. C'est clair. On avance, mais il y a encore du chemin.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet événement, la MedCop 22 à Tanger ?
Bon, moi, je suis venue, évidemment, parce que j'étais intéressée de nous montrer, d'échanger, de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. C'est vraiment l'occasion. Il faut des lieux de rencontre avec d'autres pays, parce que, bon, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que le problème est global. Bon, ici, le problème de la Méditerranée est global. J'ai entendu des gens du Liban qui expliquait que leurs déchets étaient jetés pratiquement directement dans la mer, et donc ça impacte directement sur toute la Méditerranée. Il faut être ensemble pour régler le problème globalement. Ça ne sert à rien de résoudre un problème d'un côté de la Méditerranée si de l'autre côté on fait le contraire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir d'autres approches. Nous, c'est vraiment, on est plus proche de l'agriculture, de l'agroécologie, du rural, mais il y a d'autres approches. On a parlé, par exemple, du recyclage dans les villes, de l'architecture, etc. C'est bien d'avoir d'autres idées, avec d'autres expériences, des gens qui ont vécu certaines choses dans des conditions similaires. Quand même, le climat méditerranéen, ce n'est pas le climat du nord de la France, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à ici, quoi.
Point fort de la MedCop de Tanger, le premier forum des jeunes méditerranéens pour le climat. Lamia Bazir, 26 ans, y a participé.
J'ai participé à plusieurs forums internationaux et je pense que celui-ci se distingue par le fait que la plupart des participants, notamment les jeunes, sont des jeunes du terrain, préoccupés pour avoir la traduction concrète de toute idée ou de tout engagement. Tous ces jeunes participants de la Méditerranée sont dorénavant connectés, peuvent appuyer par de l'expertise, par des idées, mais aussi par de la pression quand il le faut pour assurer que le suivi des projets soit respectueux de nos engagements climatiques.
Mais en faisant quoi ? Comment comptez-vous faire pression ?
Les gouvernements ont besoin des jeunes. Comme vous le voyez, beaucoup des preneurs de décisions font partie de la génération précédente. Donc ils n'ont pas grandi dans ce débat-là. Les jeunes, eux, au contraire, sont imprégnés de cette culture climatique. Nous l'avons étudié à l'école. Déjà, nous avons une culture qui n'a pas un bagage, un capital. Le fait qu'on soit conscient qu'engager et mobiliser les territoires, que la décentralisation est le moyen d'avoir le plus d'impact et de changer les choses. Et ensuite, nous avons aussi des outils qui n'ont pas. Nous avons la technologie, nous avons les réseaux sociaux, la facilité à les utiliser. Nous avons aussi la possibilité de faciliter leur communication, leur accès aux masses. La jeunesse en Méditerranée de moins de 25 ans représente 50% de la population de la Méditerranée. 50%. Et ceux de moins de 30 ans, 70% de la population de la Méditerranée. Qui peut mieux parler aux jeunes que les jeunes eux-mêmes ? Nous sommes dans des universités, nous sommes dans des écoles, nous sommes dans des associations de quartier. Donc les gens leur facilitent la tâche de comment accéder à cette population-là. Donc bien sûr qu'ils ont besoin de nous afin de sensibiliser la population et les masses par rapport à cette question-là. Parce que vous savez, pendant très très longtemps, quand on parlait d'environnement, c'était un sujet pour beaucoup qui était élitiste. Donc les masses, la population ne se sentait pas préoccupées ou concernées par ce débat-là. Mais aujourd'hui, quand on les implique, quand on les associe et quand on fait qu'ils s'approprient ce débat-là, qu'ils s'identifient à lui par leur quotidien et par les conséquences du changement climatique, là je pense qu'on pourrait voir plus de résultats.
Comment est-ce que votre conscience environnementale et votre conscience du réchauffement climatique s'est-elle éveillée ?
Moi, je fais partie de cette génération qui, depuis une dizaine d'années, a entendu parler de l'environnement, contrairement aux générations précédentes. Parce que je suis aussi la génération de Rio, donc je suis née en début des années 90. Moi, je suis aussi la génération qui a vécu le tsunami, qui a vu des inondations, qui a vu des choses visuellement, en images et en vidéo. Donc on les vit en quelque sorte. Donc à partir du moment où ça devient une réalité continue, on ne peut plus oublier et on ne peut plus être aliéné par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que maintenant, pour moi, c'est quelque chose de naturel.
C'est une génération pour laquelle le réchauffement climatique est l'évidence même.
C'est tout à fait ça. Mais c'est la jeunesse mondiale qui est dans ce cas-là. La différence de la génération méditerranéenne, c'est que la génération méditerranéenne a connu beaucoup de violence. Qui ne sont pas nécessairement des violences climatiques seulement. Ce sont des violences politiques, ce sont des violences culturelles, ce sont des violences générationnelles parce qu'elles se trouvent exclues dans beaucoup de cas des prises de décisions. Donc c'est une jeunesse qui a un manque d'opportunités, qui est en recherche d'espace où elle pourrait participer. Et justement, le climat offre cette opportunité-là. Le climat parce qu'il est moins polémique, et parce qu'il y a une volonté, je dirais, des preneurs de décisions d'associer la société civile, c'est un canal qui est facile d'accès pour les jeunes. C'est un canal aussi qui est ouvert, parce que c'est nouveau, parce qu'il a cette soif d'énergie, cette soif d'idées nouvelles, cette soif de projets. Donc les jeunes, pour une fois, trouvent un espace qui leur est ouvert, et un espace dans lequel ils sont reconnus. La jeunesse a une masse d'énergie, de potentialité, de volonté, de créativité, que si elle n'est pas mobilisée, utilisée pour la bonne cause, ou pour des projets constructifs, irait vers d'autres réseaux qui, eux, seraient destructifs. Et c'est de cette façon qu'on combat l'extrémisme, qu'on combat la violence. C'est en offrant des alternatives pour que cette énergie soit utilisée à bon escient et de façon constructive. Et c'est en disant aux jeunes, vous existez. Et je pense que ça réussit aujourd'hui, je suis assez optimiste.
Arnaud Keralt Baza, conseiller en développement durable du gouvernement de Catalogne.
Il faut savoir une chose qui est très importante. Les citoyens de la Méditerranée sont parmi les citoyens du monde les plus préparés pour s'adapter au changement climatique parce que nous avons fait ça toute la vie. On a eu toujours des problèmes avec l'eau, avec l'alimentation. Dans l'Espagne, pendant le Moyen-Âge, les Arabes nous ont apporté un système d'irrigation presque parfait. Il faut mettre tout ça en valeur, avoir un peu d'orgueil et dire « Ok, nous avons des problèmes, mais nous sommes une partie importante de la solution. » Et ces gens qui sont analphabètes, ils sont les protagonistes de cette adaptation historique. Il faut mettre ça en valeur. Il faut aller toujours avec un message positif. C'est difficile d'essayer de trouver des choses positives à une question qui est avec des impacts très négatifs. Mais si on va toujours avec un message négatif, c'est très difficile d'engager la population pour faire des choses positives. Si on croit que nous sommes toujours les victimes, ça coupe notre capacité innovatrice, notre capacité de travailler, c'est ça. Je crois que la MEDCOP et la COP 22, mais surtout tous les MEDCOP, doivent être un pont entre les différents rives de la Méditerranée pour dire on va essayer de trouver ensemble les solutions pour être les protagonistes de notre futur. Il faut avoir du courage, c'est ça.
Merci à Cerise Maréchaux qui était donc à Tanger pour ses pas du vent cette semaine. Demain, nous vous ferons découvrir Résonance Nord-Sud, un incubateur de projets sociaux et solidaires à destination de l'Afrique et l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux qui a lieu actuellement à la Fondation Cartier à Paris. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.
Le goût du monde.